Bonjour et merci de prendre place. Moïse a eu des révélations extraordinaires de Dieu. Pensez au buisson ardent. Pensez à tout le temps qu'il a passé sur le mont Sinaï pour recevoir les instructions de Dieu concernant l'alliance, le tabernacle, la loi. Et puis pensez à la tente de la rencontre où Dieu parlait face à face avec Moïse comme un homme parle à son ami. Oui, Moïse fait partie du cercle restreint des hommes et des femmes qui ont eu des révélations extraordinaires de Dieu, et je ne parle même pas des actes prodigieux, miraculeux, dont il a été souvent l'agent et le témoin. Pourtant, toutes ces choses, et d'autres encore, n'enlèvent pas son humanité à Moïse. Il reste un homme malgré tout. Et nous pourrions dire de lui ce que le Nouveau Testament dit du prophète Élie dans Jacques. Élie était un être humain de la même nature que nous. De la même nature que nous. Ce matin, dans notre série sur Moïse, nous allons retrouver un Moïse qui nous ressemble beaucoup plus que quand il semble inaccessible sur le piédestal de sa relation très privilégiée avec Dieu. Nous allons retrouver Moïse au cœur d'une profonde déprime. Quelques mots de contexte tout d'abord. La dernière fois, nous avons vu comment Dieu a finalement pardonné à son peuple idolâtre l'idolâtrie du veau d'or par l'intercession de Moïse, et comment il a renouvelé l'alliance avec le peuple, une alliance que le peuple avait rompue par sa désobéissance. Et puis, nous avons vu comment Dieu est revenu, après être sorti du milieu du peuple, comment il est revenu au milieu de son peuple, en particulier une fois le tabernacle achevé, quand la nuée est descendue sur la tente. Depuis, Dieu a fini de donner l'essentiel de sa loi à Moïse et au peuple, toutes les instructions pour que le peuple puisse vivre dans l'alliance, pour que le peuple puisse faire la volonté de Dieu. Et une très grande partie de ces instructions, de ces lois, se trouve dans le livre du Lévitique, où nous voyons en particulier la mise en place du système sacrificiel pour faire l'expiation des péchés du peuple. Le peuple va passer environ un an au mont Sinaï jusqu'au jour où la nuée va s'élever au-dessus de la tente, au-dessus du tabernacle, donnant le signal du départ. Et c'est là, après le départ, que nous allons retrouver Moïse et le peuple dans le livre des Nombres. Nous quittons donc le livre de l'Exode et nous arrivons dans le livre des Nombres. C'est là que nous allons retrouver Moïse dans un profond découragement, une dépression même, où il demande la mort à Dieu. Et je vous invite à lire un premier passage dans le livre des Nombres. Nous allons lire les versets 10 à 15 du chapitre 11. Alors, j'arrive pas à prendre le contrôle du... Merci. Nombre 11, versets 10 à 15. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan à l'entrée de sa tente. Le Seigneur se mit dans une grande colère et cela déplut à Moïse. Moïse dit au Seigneur, « Pourquoi me fais-tu du mal à moi, ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourrice porte le nourrisson jusqu'à la terre que tu as promise par serment à ses pères? Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne peux pas, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Puisque c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus à voir le malheur que tu m'infliges. Pourquoi Moïse est-il déprimé? Le texte nous donne deux raisons au verset 10. Il y a premièrement les pleurs du peuple, et puis deuxièmement la grande colère de Dieu. Ces deux raisons font que Moïse pense ne plus être au bénéfice de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Verset 11, Moïse dit au Seigneur, « Pourquoi me fais-tu du mal à moi, ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ?» La charge du peuple est devenue trop pesante pour Moïse. Verset 12, « Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que tu me dises, porte-le sur ton sein ?» comme la nourrice, etc. Puis au verset 14, « Je ne peux pas, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Il est trop lourd pour moi. » Mais quelle est la raison des pleurs du peuple? Elle nous est donnée au verset 13, où nous lisons « Où prendrai-je de la viande pour en donner à ce peuple ?» Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Le peuple veut de la viande et il presse Moïse pour en recevoir. Et Moïse n'en peut plus. Il est à bout de force. Il est à deux doigts de vaciller et il sombre dans un profond découragement dont la seule issue à ses yeux semble être la mort. Verset 15, « Puisque c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je n'ai plus à voir le malheur que tu m'infliges. Tue-moi donc. » Moïse demande à Dieu la mort comme le feront d'autres hommes dans l'Ancien Testament, après lui comme Élie, ou Jonas, qui passeront par une déprime similaire. Arrêtons-nous maintenant un instant sur la plainte du peuple, qui est en partie à l'origine du gros coup de blues de Moïse. Et je vous invite à lire les versets qui précèdent ceux dont nous venons de parler. Et je vais lire à partir du début du chapitre 11, les versets 1 à 9. Le peuple se plaignait amèrement en présence du Seigneur. Lorsque le Seigneur l'entendit, il se mit en colère. Un feu du Seigneur s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria vers Moïse. Moïse pria le Seigneur et le feu s'apaisa. On appela ce lieu du nom de Tabéhéra, incendie, parce que le feu du Seigneur s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au sein d'Israël fut rempli de désir. Et les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer. Ils disaient, « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, notre gosier est desséché. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Or, la manne ressemblait à de la graine de coriandre Elle avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la recueillir. On la broyait au moulin et on la pilait dans un mortier. On la faisait cuire dans une marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'un biscuit à l'huile. Quand la rosée descendait sur le camp la nuit, la manne y descendait aussi. Cela fait 3 jours que le peuple a quitté le Sinaï. Ça nous est rapporté dans le chapitre précédent. 3 jours et il commence à se plaindre amèrement, dit le texte. Nous ne savons pas quel est l'objet de la plainte à ce stade. Peut-être tout simplement les conditions difficiles de la marche dans le désert pendant 3 jours, après avoir été sédentaire pendant un peu plus d'un an. Nous ne savons pas quel est l'objet de cette plainte du peuple, mais nous savons qu'elle a suscité la colère de Dieu. La colère de Dieu étant sa juste réponse au péché de l'homme, nous comprenons que cette plainte du peuple traduit à l'évidence son incrédulité et sa désobéissance. Et Dieu manifeste sa colère par un avertissement au peuple. Puisqu'il est dit au verset 1, le peuple se plaignait amèrement en présence du Seigneur, le Seigneur l'entendit, il se mit en colère, un feu du Seigneur s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Il semblerait que les dégâts n'aient été que matériels. Le texte ne parle pas de pertes humaines. Quoi qu'il en soit, verset 2, le peuple crie à Dieu et Dieu, dans sa grâce, apaise le feu. Verset 3, le nom de Tabéra, qui signifie incendie en hébreu, est donné au lieu de l'incident. Après cet épisode, un autre feu est allumé, bien plus difficile à maîtriser, celui-là, que le premier. C'est le feu de l'ingratitude, le feu de la convoitise, le feu de la pitié de soi. Et ce feu est allumé tout d'abord par le ramassis de gens qui se trouvaient au sein du peuple. Souvenez-vous, ces gens sont ceux qui ont profité de l'aubaine du départ des Hébreux pour fuir l'Égypte, pour fuir la tutelle de Pharaon. Et très vite, ce feu-là se répand comme une traînée de poudre parmi le peuple, et les Israélites se joignent à la contestation et demandent de la viande à manger. Nous notons ici combien les influences mauvaises peuvent être contagieuses, combien une petite étincelle suffit parfois à embraser un peuple tout entier. Leur désir de viande, que l'on peut comprendre, va être attisé, amplifié par le souvenir des bonnes choses qu'ils avaient en Égypte. Nous lisons au verset 5 et 6, « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, de l'ail. Maintenant notre gosier est desséché, plus rien. » Nos yeux ne voient que de la manne. À les entendre, l'Égypte, c'était le jardin d'Éden. Ils semblent avoir oublié qu'ils étaient esclaves en Égypte, esclaves et maltraités. Face à la manne qui était la base de leur alimentation depuis à peu près un an, les poissons, les fruits et les légumes de l'Égypte paraissent tellement désirables, tellement appétissant, et le peuple se plaint, murmure, pleure et met la pression sur Moïse, qui nous donnera de la viande à manger. Nos yeux ne voient que de la manne, disent-ils. La manne qui pourtant, dit le texte, avait le goût d'un gâteau à l'huile. La manne qui était le signe quotidien que Dieu prenait soin de son peuple et veillait sur eux en pourvoyant à leurs besoins. Voilà donc le contexte de la dépression de Moïse, les pleurs du peuple. Mais il est aussi question de la colère de Dieu, qui ne se manifestera en réalité que plus tard, à la fin du chapitre. Alors comment peut-elle faire ici partie de la raison de la déprime de Moïse? Je suggérerais que Moïse s'est senti abandonné par Dieu. Dieu qui n'accède pas à la demande du peuple. Dieu qui semble attendre que Moïse se débrouille tout seul. Dieu qui semble avoir laissé toute la charge du peuple à Moïse. Et je suggérerais que Moïse a vu dans cet abandon qu'il imagine le signe de la colère de Dieu. Et nous notons que les paroles de Moïse après la réponse de Dieu que nous allons lire maintenant soulignent elles aussi ce sentiment d'abandon. Je poursuis la lecture au verset 16. Nombre 11, verset 16. Le Seigneur dit à Moïse, « Rassemble 70 des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens et secrétaires du peuple, amène-les à la tente de la rencontre, qu'ils se tiennent là, debout avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je retirerai un peu du souffle qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, pour qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes plus tout seul. Au peuple, tu diras, « Consacrez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. » Puisque vous avez pleuré en présence du Seigneur en disant, « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous étions si bien en Égypte. Le Seigneur vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous l'ayez en dégoût, puisque vous avez rejeté le Seigneur qui est parmi vous, et que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse dit, « Le peuple qui m'entoure forme une infanterie de 600 000 hommes, et toi tu as dit, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux du petit bétail et du gros bétail pour qu'ils en aient assez ? Rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez ?» Le Seigneur répondit à Moïse, « Le bras du Seigneur serait-il trop court ? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrive ou non. » Dieu va donner deux réponses à Moïse qui semble, comme le peuple, avoir oublié ce que Dieu est capable de faire. La première réponse de Dieu, c'est qu'il va décharger Moïse, répartir sa charge sur 70 anciens d'Israël à qui il va donner de son esprit, de l'esprit qu'il a donné à Moïse pour qu'il puisse assumer sa charge, de l'esprit dont ils auront besoin pour assumer leur charge, de l'esprit dont nous avons toujours besoin pour servir le Seigneur. La deuxième réponse de Dieu, c'est qu'il va donner de la viande au peuple, et il va leur en donner jusqu'au dégoût, pendant un mois entier, jusqu'à ce qu'elle leur sorte par les narines. Verset 20. Et nous avons ensuite une indication importante pour la compréhension du texte. Une indication, toujours au verset 20, de la signification des murmures et des pleurs du peuple. Je reprends la lecture au verset 19, « Vous en mangerez non pas un jour, ni deux, ni cinq, ni dix, ni vingt, mais un mois entier jusqu'à qu'elle vous sorte par les narines et que vous l'ayez en dégoût, puisque vous avez rejeté le Seigneur qui est parmi vous et que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte ?» Pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte ? Il apparaît maintenant clairement que la plainte du peuple est beaucoup plus profonde qu'elle n'y paraît. Ce n'est pas juste un petit coup de nostalgie du bon temps passé en Égypte. Ce n'est pas juste le désir de varier le menu, un peu trop monotone de la manne. C'est un rejet de Dieu. C'est un rejet de sa délivrance. Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte, dit le peuple. Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte signifie qu'il préfère l'Égypte au désert, qu'il préfère l'esclavage à la liberté, qu'il méprise finalement tout ce que Dieu a fait pour eux, tout ce qu'il a fait pour les délivrer, tout ce qu'il a fait pour qu'ils puissent vivre jusque-là dans le désert. La rébellion est profonde. Elle s'écrit en quelques mots, mais elle est très profonde. La demande de viande, c'est l'arbre qui cache la forêt du rejet de Dieu par le peuple. Je vous invite à poursuivre et à terminer la lecture du chapitre. Je reprends à partir du verset 24. Moïse sortit dire au peuple les paroles du Seigneur. Il rassembla 70 des anciens du peuple et les plaça debout autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il retira un peu du souffle qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que le souffle se posa sur eux, ils se mirent à faire les prophètes. Mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes, l'un nommé Eldad, l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Le souffle se posa sur eux. Ils étaient parmi les inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente. Ils se mirent à faire les prophètes dans le camp. Un jeune homme courut dire à Moïse, « Eldad et Médad font les prophètes dans le camp. » Josué, fils de Noun, qui était auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les !» Moïse lui répondit, « Tu es jaloux pour moi ? Ah, si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, si le Seigneur mettait son souffle sur eux !» Sur quoi Moïse se retira dans le camp, lui, et les anciens d'Israël. Il se leva un vent venu du Seigneur qui amena des cailles de la mer et les rabattit sur le camp et autour du camp jusqu'à une journée de marche d'un côté et une journée de marche de l'autre côté. Il y en avait deux coudées au-dessus de la terre. Pendant tout ce jour-là, toute la nuit et toute la journée du lendemain, le peuple ramassa les cailles. Chacun en ramassa au moins 10 homères. Ils les étendirent autour du camp. Comme la viande était encore entre leurs dents, avant qu'ils l'aient mâchée, le Seigneur se mit en colère contre le peuple. Le Seigneur frappa le peuple d'un très grand fléau. Et on appela ce lieu du nom de Kibrotava, tombeau du désir. Parce qu'on y ensevelit le peuple rempli de désir. Comme Dieu l'avait annoncé, il donne de son esprit aux 70 anciens que Moïse a rassemblés pour l'occasion autour de la tente. Et dès que l'esprit se pose sur eux, ils se mettent à prophétiser, à faire les prophètes. Notons en passant que la tradition juive fait un lien très claire entre cet événement et la création du Sanhédrin, le tribunal juif, composé lui aussi de 70 membres, mais qui n'apparaîtra dans l'histoire d'Israël que vraisemblablement après l'exil babylonien. Mais alors que les 70 anciens sont réunis, et alors qu'ils se sont mis à prophétiser, quand l'Esprit est venu sur eux, deux hommes, du nom de Eldad et Médad, qui étaient restés dans le camp, se mettent eux aussi à prophétiser. Et voyant cela, un jeune homme court prévenir Moïse. C'est Josué qui réagit le premier et qui demande à Moïse de les en empêcher. « Moïse, mon Seigneur, empêche-les !» La réponse de Moïse nous amène à une compréhension très importante de l'œuvre de Dieu. Moïse dit au verset 29, « Tu es jaloux pour moi ? Ah, si tout le peuple du Seigneur était composé de prophètes, si le Seigneur mettait son souffle sur eux !» Moïse décèle de la jalousie chez Josué, dans la réaction de Josué, qui n'imagine sans doute pas que la charge de Moïse puisse être partagée, que quelqu'un d'autre puisse faire ce que fait Moïse. Mais Moïse, lui, a une vision beaucoup plus large. Il aimerait que tout le peuple soit composé de prophètes. Et vous noterez que ce vœu de Moïse sera annoncé par le prophète Joël et s'accomplira à la Pentecôte quand l'Esprit sera donné à tous ceux qui étaient rassemblés et qui est donné depuis à toutes celles et ceux qui mettent leur confiance par la foi en Jésus-Christ. La leçon implicite de cet épisode est qu'il n'y a pas de place pour la jalousie au service du Seigneur. Si Dieu donne à d'autres de faire ce que moi je fais, et peut-être même le faire mieux que ce que je fais, devrais-je en prendre ombrage ? Bien sûr que non. Je dois au contraire me réjouir. Me réjouir que l'œuvre du Seigneur progresse. Me réjouir qu'il équipe tout ce qu'il appelle, qu'il donne à chacun et qu'il donne toujours ce qu'il ordonne. Il n'y a pas de concurrence au service du Seigneur. Seulement de la complémentarité, seulement des hommes et des femmes qui répondent à l'appel du service. Le serviteur de Dieu qui désire voir l'œuvre de Dieu avancer se réjouit de ce que font les autres pour le Seigneur. Et il rend grâce à Dieu pour cela. Après l'accomplissement de la première partie de la réponse de Dieu à Moïse, vient la deuxième partie de la réponse, quand Dieu donne de la viande au peuple. Dieu fait souffler un vent qui amène des cailles en abondance, certainement de l'Arabie, par-dessus la mer Rouge. Et il y a tellement de cailles, dit le texte. Et c'est dans l'amplitude de ce phénomène naturel qui existe, par ailleurs, qu'il faut voir le miracle. Il y a tellement de cailles qu'elles couvrent un territoire allant d'une journée de marche d'un côté à une journée de marche de l'autre côté. Et par endroit, il y en a jusqu'à 2 coudées de haut, c'est-à-dire pas loin d'un mètre. Ça fait beaucoup. Comme d'autres oiseaux migrateurs, les cailles devaient être complètement épuisées après leur vol au-dessus de la mer. C'est quand même des petits oiseaux avec des petites ailes. Et donc, complètement épuisées, il n'y avait plus qu'à les ramasser. Et c'est ce que le peuple va faire toute la journée, toute la nuit et tout le jour suivant. Et on peut facilement imaginer la frénésie qui s'est emparée du peuple. À ce moment-là, devant une telle abondance et après avoir tellement désiré de la viande à perte de vue. Et les quantités qui sont données sont juste énormes. 10 homères par personne, ça fait à peu près 2 mètres cubes par personne. Ça fait beaucoup, beaucoup de viande. beaucoup de viande qui devait être séchée pour être conservée. C'est la raison pour laquelle nous lisons « Ils les étendirent autour du camp ». Ce miracle des cailles aurait dû amener le peuple à la reconnaissance et à la repentance. Mais la suite du récit, et en particulier la colère de Dieu contre le peuple, nous montre qu'il n'en est rien. C'est pourquoi le peuple qui s'est rebellé contre Dieu, le peuple qui a désiré retourner en Égypte, le peuple qui a méprisé la délivrance de Dieu, le peuple qui, à l'évidence, ne s'est pas repenti de ses mauvaises voies, va subir une nouvelle fois le jugement de Dieu qui frappe le peuple, dit le texte, d'un très grand fléau. Je ne vous en ai pas dit plus, simplement que ce lieu reçoit le nom de Kibrothava, qui signifie tombeau du désir ou tombeau de la convoitise. J'aimerais, pour terminer ce message, revenir sur un point. Un point qui me semble particulièrement important dans le texte, mais aussi pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle. Il s'agit des murmures et des plaintes du peuple qui se traduisent en particulier, écoutez bien, par la nostalgie des poissons et des melons d'Égypte. La nostalgie des poissons et des melons d'Égypte. Au cœur de notre passage se trouvent les plaintes et les pleurs du peuple. Ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Le peuple murmura devient comme un refrain lancinant de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Il peut aussi parfois devenir le refrain lancinant de nos propres vies. Si l'on peut se plaindre pour toutes sortes de raisons, celle qui se tapit derrière la demande de viande du peuple est en réalité très sérieuse. Car derrière la demande de viande, nous l'avons vu, apparaît le regret, la nostalgie de l'Égypte. Une nostalgie qui sonne comme une remise en question de Dieu lui-même, une remise en question de son action rédemptrice, une remise en question qui amènera, une fois de plus, le jugement de Dieu sur le peuple. Dans les difficultés qui jalonnent notre vie et notre marche avec le Seigneur, nous pouvons être parfois tentés de murmurer. C'est une tendance plutôt naturelle de la nature humaine. Il est facile dans les difficultés, dans l'épreuve, de se plaindre et de finir par oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous voyons dans notre passage que le souvenir des actes de Dieu s'estompe pour le peuple et même pour Moïse, à qui Dieu doit rappeler que le bras du Seigneur n'est pas trop court. Moïse, qui pourtant en a vu d'autres, semble avoir oublié. Il est facile dans les difficultés, dans l'épreuve, de se plaindre et d'oublier qui est Dieu pour nous. Oublier qu'il est le Dieu de notre salut, le Dieu de la délivrance de notre Égypte. Le Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté qui conserve sa bonté jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, comme Sigère nous l'a rappelé, comme nous l'avons vu dimanche dernier. Il est facile dans les difficultés, dans l'épreuve de se plaindre et d'oublier qui nous étions avant de rencontrer le Christ. Avant de comprendre et d'accepter son amour, avant de décider de le suivre, oubliez qu'à l'instar des Israélites qu'il était des Égyptiens, nous étions esclaves. Esclaves de notre péché, esclaves de nos désirs, esclaves de nos passions. Il est facile dans les difficultés, dans l'épreuve, de se plaindre, d'oublier et de banaliser ce que nous avons en Christ. Nous voyons dans notre passage que la perspective du peuple était complètement faussée, déformée, au point de ne voir que la manne, et d'oublier tout le reste. Et c'est ce qui arrive quand nous commençons à comparer ce qui n'est pas comparable. À l'instar du peuple qui s'est mis à comparer la manne du désert avec les poissons et les melons de l'Égypte. Il est facile dans les difficultés, dans l'épreuve, de se plaindre, d'oublier et de finir par idéaliser l'Égypte. C'est d'une certaine manière l'aboutissement de ce processus d'oubli. Et à l'instar des Israélites qui ont fini par dire « Nous étions si bien en Égypte », ce qui est quand même incroyable, « Nous étions si bien en Égypte », verset 18, « Nous pouvons finir par idéaliser notre vie avant le Christ. Nous étions si bien, pouvons-nous être tentés de dire. Si bien peut-être, mais esclave de Satan. Si bien peut-être, mais perdu pour l'éternité. Oui, c'est bien de l'idéalisation que nous trouvons dans notre texte. Ils étaient esclaves, opprimés, maltraités. Ils ont crié à Dieu qui les a délivrés. Ils sont maintenant libres et ils pleurent devant le Seigneur en désirant retourner en Égypte. L'Égypte qui est devenue à leurs yeux un lieu de délices, un lieu où ils pouvaient manger pour rien, un lieu d'abondance. Que leur perspective est faussée et déformée. Je crois personnellement qu'une des tentations les plus subtiles de Satan et de faire croire aux chrétiens que la vie chrétienne est une vie de frustration. Qu'avec le Christ, nous avons finalement perdu au change. Qu'en Christ, nous sommes injustement frustrés et privés de tous les délices auxquels nous avions accès en Égypte quand nous étions loin de Dieu. Vous l'avez compris, j'utilise ici bien évidemment l'Égypte comme l'image, l'illustration de la vie sans Christ, de la vie que nous avions avant de connaître le Christ, avant le salut. Si nous sommes venus à Christ par la foi, nous avons été délivrés de notre Égypte et nous nous sommes mis en route vers le pays promis. Et il peut arriver surtout quand nous traversons des turbulences, de nous souvenir avec nostalgie des poissons et des melons de l'Égypte. Satan aime à nous rappeler tous les bons moments de notre vie sans Dieu. Il sait combien nous oublions facilement le négatif pour ne retenir que les bonnes choses. Il sait combien il nous est facile d'idéaliser et d'embellir les choses. Il sait combien nous sommes vulnérables dans les déserts de nos vies. Combien nous devons être vigilants, parce qu'avec les bons souvenirs de l'Égypte vient le désir de retourner en Égypte, vient la tentation des péchés de l'Égypte, vient la tentation de se conformer à l'Égypte. Combien les poissons et les melons de l'Égypte semblent appétissants dans le désert de l'épreuve. Mais ne nous y trompons pas. L'Égypte, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage du péché. C'est la tromperie des promesses qu'elle ne peut pas tenir. C'est la mort. Il n'y a pas de paix pour notre âme en Égypte. Il n'y a pas de vraie liberté en Égypte. J'espère qu'il n'y a pas d'Égyptiens parmi nous ce matin. Que faire quand la nostalgie des poissons et des melons de l'Égypte se fait forte? Je ne peux pas développer maintenant, mais je dirais simplement qu'il nous faut, je dirais trois choses. Qu'il nous faut premièrement cultiver la mémoire des bienfaits de Dieu. Faire acte de mémoire, nous souvenir, c'est basique mais c'est fondamental. Deuxièmement, je dirais qu'il nous faut cultiver la reconnaissance. La reconnaissance régulière à Dieu pour ses bienfaits. Hein, il y a un enchaînement, je me souviens et puis je suis reconnaissant. L'apôtre Paul le dit à plusieurs reprises, rendez toujours grâce pour tout, toujours pour tout. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, je dirais qu'il nous faut cultiver le contentement. Le contentement qui s'apprend. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris. Il y avait un avant, il y avait un après. Il a appris. Ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel que de nous contenter, surtout quand nous sommes dans le désert, quand les temps sont difficiles. Le contentement n'est pas une chose naturelle pour nous. Et encore moins dans la société de consommation qui est la nôtre. Avec le bombardement de sollicitations dont nous faisons l'objet jour après jour. Il nous faut néanmoins apprendre le contentement qui, associé à la piété, dit Paul à Timothée, est une grande source de gain. Le contentement associé à la piété, à la foi, est une grande source de gain. L'importance du contentement est particulièrement vraie pour ce qui nourrit notre foi, en particulier, ou à savoir la parole de Dieu. Et nous devons veiller à ne pas succomber au mirage des cailles. La manne est suffisante, pleinement suffisante pour nous faire vivre dans le désert, jusqu'au pays promis. Par caille, j'entends tout ce qui peut prendre la place de la manne, tout ce qui peut prendre la place de ce qui nourrit notre foi. Et c'est en particulier vrai de tout ce qui nous invite à marcher par la vue et non par la foi. Toutes ces choses, la mémoire des bienfaits de Dieu, la gratitude, le contentement et d'autres encore sont de puissants antidotes contre le murmure, contre les souvenirs plaisants de l'Égypte, contre le désir d'y retourner. Que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours trouver en lui et en sa parole tout ce dont nous avons besoin pour notre route. Qu'il nous accorde toujours une mémoire précise de ses bienfaits, qu'il nous accorde toujours un cœur reconnaissant pour ses bienfaits et qu'il nous accorde toujours un cœur plein de contentement pour sa gloire et pour notre bien. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.